Alors, comme cela a été dit, au Mexique, il y a une réforme sur la santé en matière de santé mentale. Aujourd'hui, cette loi est reconnue comme la plus avancée du monde. En effet, elle interdit l'hospitalisation contre la volonté et reconnaît des principes fondamentaux tels que le droit au consentement éclairé, les directives anticipées ou l'aide à la prise de décision. Cette réforme vise également à garantir que les services de santé mentale soient fournis à partir de la communauté, et cela implique d'abandonner le modèle d'asile et de déclenchement de processus de désinstitutionnalisation. Dans le processus politique qui a conduit à cette réforme, je vois qu'il est important de souligner un ensemble de personnes et d'acteurs. Et c'est pour cela que les mouvements qui sont à la recherche d'une transformation sociale doivent tenir compte de, en tant qu'objectif, de la fin de la définition biomédicale de soins de santé mentale. Il faut donc pour cela mobiliser tout un ensemble de mouvements sociaux, étant donné que l'impact de la définition biomédicale touche toute une gamme d'expériences humaines. Nous avons parlé des personnes en situation de rue, nous avons parlé des personnes privées de liberté. Là encore, il nous reste fort à faire pour que le modèle biomédical de prise en charge de la santé mentale n'ait davantage de répercussions sur les conditions de vie de ces populations. Je dirais également que l'expérience de cette réforme au Mexique nous permet de souligner différents aspects et nous pouvons ériger ces aspects en exemple. En premier lieu, nous pouvons dire qu'il y a eu l'articulation d'un collectif pluriel de personnes vivant avec un handicap psychosocial et d'usagers et d'anciens usagers de services de santé mentale, de consommateurs, de substances psychoactives, d'activistes, de collectifs et d'organisations de défense des droits de l'homme. Et cet ensemble a convenu de la nécessité d'une réforme de la santé mentale selon une approche fondée sur les droits de l'homme dans ce pays. Il y a également la réalisation du diagnostic et de recherche sur la violation des droits de l'homme dans les services de soins de santé mentale au Mexique. Il y a la participation effective des personnes touchées par le modèle de soins de santé mentale au Mexique, c'est-à-dire les usagers et les anciens usagers de services et de consommateurs de substances psychoactives. Alors, le processus de plaidoyer se poursuit sur 5 ans, de la constitution du collectif à l'entrée en vigueur de la réforme. La capacité du collectif à réagir au projet de loi sur le sujet, qui tentait de maintenir les critères biomédicaux dans ses services, la construction collaborative au sein du collectif santé mentale et droit d'une proposition de réforme qui a donc ce collectif a servi de référence dans la toute dernière partie du processus de plaidoyer. Il y a également eu un dialogue avec les législateurs et les autorités sanitaires qui, en même temps, représentaient un processus pédagogique sur les droits de l'homme et la perspective du handicap. Alors, je voudrais ici souligner la participation des personnes ayant un handicap psychosocial. Nous avons eu une position propre avec des actions autonomes de nature différente. Il y a surtout eu donc l'utilisation des moyens de communication et nous avons été les porte-parole d'un projet de réforme. Avec la COVID-19, nous avons pu utiliser les outils virtuels pour rassembler les activistes et les collectifs pour faire face aux discours sanitaires. Avec donc ce processus de plaidoyer, il y a eu un mouvement de personnes en situation de handicap psychosocial qui a émergé sous la bannière Orgullo Loco. Depuis 2018, ce mouvement social a mené plusieurs actions juridiques, culturelles, politiques, autogérées, telles que des manifestations publiques, des forums d'experts par expérience, des festivals d'art et des formations sur les droits des personnes en situation de handicap psychosocial. Aujourd'hui, le mouvement Orgullo Loco, donc Orgueil Fier au Mexique, est reconnu comme le principal groupe de personnes en situation de handicap psychosocial dans le pays en raison de l'impact de sa participation publique. Je dirais enfin que s'agissant des processus de plaidoyer, il faut absolument encourager la participation et le leadership des personnes les plus touchées.